De retour, bonsoir à tout le monde. On est ravis de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Par les temps qui courent, écoute les artistes pendant une heure. Et ce soir, on reçoit Joseph Pontus.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler papi.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
C'est l'histoire d'un cadeau d'anniversaire, un beau cadeau d'amour. L'histoire d'un livre qui s'écrit dans les interstices où ce n'était pas prévu, entre la fatigue du jour et la fatigue du lendemain. C'est l'histoire d'un homme qui quitte sa région pour vivre avec la femme qu'il aime et qui ne trouve pas de métier dans sa branche, comme on dit. Un homme qui en trouve quand même du travail, presque jour le jour, dans différentes usines agroalimentaires. C'est l'histoire d'un cerveau qui répète, une nuit durant, égoutter du tofu, savoir si un sens caché permettrait d'avoir main mal. C'est l'histoire de plein de corps, de plein de vies qui ne s'entendent plus penser dans le brouhaha et qui attendent que d'autres décident pour leur pause. C'est l'histoire d'une classe ouvrière qui existe encore mais qui en perd parfois la conscience, faute de mots pour le dire. C'est un peu, et entre autres, votre histoire, Joseph Pontus, à la ligne Feuillet d'usine et publié aux éditions de la Table Ronde. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Marie Richeux.
Je présente aussi Assa Traoré. Bonsoir Assa.
Bonsoir.
Du collège Pablo Neruda à Pierrefitte-sur-Seine, Assa était en stage de 3e, en observation, toute la semaine. Et comme l'éducation des médias, ça va mieux en le faisant, en observant, mais en le faisant. Elle a lu votre livre et elle posera aussi des questions ce soir.
Je n'ai pas encore eu le malheur d'être de l'après-midi ou de soirée. Commencer à 16h, finir à minuit. Ici. Tout le monde s'accorde à dire, et j'en conviens jusque-là, que plus tu commences tôt, mieux c'est, sans compter les heures de nuit, payer 20% de plus. Comme ça, t'as ton après-midi. Quitte à se lever tôt, autant se lever tôt. Mon cul. Tes 8 heures de boulot, c'est 8 heures de boulot à quelques heures de la journée. Et puis, quand tu rentres, à la débauche, tu rentres, tu zones, tu comates. Tu penses déjà à l'heure qu'il faudra mettre sur le réveil. Peu importe l'heure, il sera toujours trop tôt. Après le sommeil de plomb, les clopes et le café du réveil avalé, à l'usine, l'attaque est directe. C'est comme s'il n'y avait pas de transition avec le monde de la nuit. Tu re-rentres dans un rêve, ou un cauchemar. La lumière des néons, les gestes automatiques, les pensées qui vagabondent, dans un demi-sommeil de réveil. Tirer, tracter, trier, porter, soulever, peser, ranger. Comme lorsque l'on s'endort. Ne même pas chercher à savoir pourquoi ces gestes et ces pensées s'entremêlent. À la ligne. C'est toujours s'étonner qu'il fasse jour à l'heure de la pause quand on peut sortir fumer et boire un café. Je ne connais que quelques types de lieux qui me fassent ce genre d'effet. Absolu, existentiel, radical. Les sanctuaires grecs, la prison, les îles et l'usine. Quand tu en sors. Tu ne sais pas si tu rejoins le vrai monde ou si tu le quittes.
C'est un extrait de votre texte, Joseph Pontus, que vient de lire Romain de Bec de Lièvre. Et peut-être on va commencer par tout de suite parler de la forme. C'est une des premières choses qui t'a interpellée à ça, c'est-à-dire
cette manière d'écrire, sans ponctuation, des espaces blancs et des retours à la ligne.
Ouais, j'ai cherché à rendre au plus juste dans l'écrit la manière dont on pense quand on est sur une ligne de production. C'est-à-dire que quand on est à l'usine, les pensées vont très vite. comme dans l'extrait qui a été lu, s'entremêlent, s'entrechoquent, rappellent des souvenirs. Et pour rendre compte au plus juste de cette vérité, il fallait que je retourne à la ligne, constamment. Et c'est évidemment un double sens qui a imposé le titre au livre assez rapidement, c'est retourner à la ligne de production, puisqu'on ne dit plus des chaînes de production aujourd'hui tous les matins, et retourner à la ligne dans l'écriture et dans les chapitres.
D'accord.
Il y avait un paradoxe dans ce geste d'écriture qui est décrit dès le départ du texte où vous dites « je veux pas écrire ». Au départ, j'y vais et je sais que je ne veux pas écrire. À quel moment ça change? À quel moment vous vous dites que ça pourra pas aller l'un sans l'autre?
C'est pas que je veux pas écrire au début, c'est que j'y vais pas pour écrire.
C'est pas pareil.
J'écris pas pour, j'écris parce que, en fait. J'écris parce que je dois consigner ce qui m'arrive. Je vais pas à l'usine dans une démarche d'écriture pour faire un reportage ou pour, comme je dis, pour m'établir et préparer la révolution comme ont pu le faire certains dans les années 60-70. J'y vais vraiment pour gagner des sous parce que j'ai pas le choix, parce que j'ai pas trouvé de boulot en arrivant en Bretagne. Et il y a qu'une seule possibilité, c'est les usines d'agroalimentaire qui embauchent dans le secteur. Et donc j'y vais sans idée préconçue, juste pour vendre la force de mes bras. Et je me prends une telle baffe dans la gueule que moi qui suis plutôt un grand lettré et plutôt un intellectuel, j'ai besoin, en rentrant chez moi le soir, d'écrire tellement je traverse une période que je trouve insensée, absurde, surréaliste, pour me dire, je vais garder au moins ces petits souvenirs-là une fois que tout ça sera terminé. Sauf que ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu, et donc les textes se sont accumulés.
Ça s'est arrivé tout de suite, cette réaction-là, d'une certaine manière, de dire, ça pourra pas rentrer en moi comme ça, sans la langue et sans les mots. Vous avez dit ça dès le premier jour?
Pas le premier jour, mais dans la première semaine. Parce qu'on a beau avoir vu des reportages, lu des livres sur l'usine, quand on débarque, c'est une telle, c'est d'une telle violence, et d'une telle force, et en même temps, paradoxalement, d'une telle organisation aussi un petit peu fascinante, que il fallait que j'essaye d'analyser, de réfléchir là-dessus et d'en faire quelque chose de que je trouve de beau de manière littéraire pour pas sombrer dans l'enfer de la machine.
C'est ce que vous appelez la paradoxale beauté, c'est-à-dire vous dites, Joseph Pontus, moi je m'attendais évidemment au froid, à la cadence, à tout ce qu'on sait de manière un peu théorique, et quand vous entrez, vous êtes frappé par ça et par autre chose.
Par, effectivement, le froid, la cadence, le bruit, les odeurs. Une usine digne du 19e siècle, dans certains moments. Comme vous le disiez dans votre intro, une journée de 8 heures... On a une demi-heure de pause qui est imposée par le chef à n'importe quelle heure de la journée, au mépris de toutes les lois du travail qui peuvent exister. Et pourtant, les gens sont là, solidaires entre eux, contents d'avoir du boulot, parce qu'on est en France en 2019, et les gens sont malgré tout contents d'avoir du boulot. Du boulot, et du boulot, c'est le cas de le dire. Parce que j'ai bossé un petit peu au boulot aussi, le coquillage le plus stupide qui soit au monde. C'est tout ce paradoxe qui fait que l'usine est en même temps un lieu qui aliène complètement, et moi qui m'a libéré. Qui m'a libéré dans mon écriture, qui m'a libéré dans mes angoisses. Et donc c'est vraiment la découverte d'un milieu ouvrier que je connaissais que de manière théorique. Et qui m'a explosé à la face, et qui m'a fait, autant que l'amour breton, revivre complètement.
Quand je disais en introduction que c'est un livre qui s'écrit dans les interstices où on pensait pas que c'était possible, entre la fatigue d'un jour et la fatigue du lendemain, est-ce qu'il y a des moments où il s'est avéré que c'était plus possible du tout d'écrire? Parce que vraiment, après avoir, et on en reparlera aussi, mais sorti le chien, il y avait plus de force pour ça.
Oui. Oui, certaines journées, c'était absolument impossible d'écrire. Les grosses journées de production, quand arrive généralement la période des fêtes de Noël, où nous sommes...
Parce que c'était pas mal des coquillages de mer.
Ouais, pas mal de coquillages de mer, aussi à l'abattoir, pas mal de commandes de vaches mortes.
Ou des agneaux pour la Pâque.
Effectivement, sur certaines grosses journées où j'étais soumis à des impératifs de production complètement cinglés, il y avait juste à rentrer chez soi, prendre une douche, sortir le chien et manger et dormir, quoi.
Et entre ce manger et dormir, vous décrivez un état un peu particulier, et ça, vous donnez la peine de mettre des mots dessus, qui est une sorte d'état de zonage, un peu de rien, qui, comme la seule chose que votre corps et que vos cerveaux peuvent faire, qui n'est pas que manger et dormir, qui serait répondre à des besoins, qui est autre chose.
Ouais, zonage, ça me fait penser à Zone d'Apollinaire au début des calligrammes. À la fin, tu es là de ce monde ancien, et on est là, L-A-S, et là, L-A, juste dans le canapé sans rien être capable de faire d'autre. En pensant au monde ancien où on avait un, où j'avais un boulot de travailleur social, où j'avais la possibilité de me mettre en grève, où j'avais la possibilité d'aller faire des soirées avec des potes. J'ai tâché d'être là dans mon écriture. Là encore, hein, je joue sur les deux sens, accent grave et LAS fatigué, parce que c'est la meilleure manière de rendre hommage, et à l'usine, qui est un personnage en tant que tel dans le bouquin, et à la littérature qui m'a aidé et à supporter cette épreuve, pour être au plus juste avec mes collègues dans mon travail. Comme vous disiez tout à l'heure, j'y vais pas pour écrire, c'est-à-dire qu'à aucun moment au début mes collègues ne savent que j'écris. J'écris juste pour moi, pour ne pas sombrer, garder un peu ces souvenirs-là. Le livre apparaît après. Mais oui, au début j'écris pour moi et pour me sauver, ouais.
Pour continuer peut-être à parler encore un peu de la langue, il y a deux remarques à ça que tu me faisais quand on échangeait un peu sur le livre, sur la parole et sur...
Écrire comme on parle. Vous écrivez comme vous parlez ?
C'est une très très bonne question à ça. J'écris pas comme je parle. J'écris comme je veux faire ressentir la manière... dont je pense quand je suis au travail. C'est-à-dire, quand on est, quand il y a des collègues qui travaillent sur les carcasses de vaches mortes, ce qu'on fait, c'est que pour vendre les steaks, il faut enlever tout le gras de la vache. Il faut garder que le muscle. Et j'ai essayé d'écrire en gardant que le muscle. C'est-à-dire de écrire sur l'os, vraiment de ratiboiser au maximum pour que ce soit le plus raide et le plus sec possible. Quand je parle, ça dépend à qui je parle. Quand je parle à l'usine, on s'échange quelques rares mots avec mes collègues pour se demander combien il reste à faire, quelle heure il est, à quelle heure c'est la pause, s'il y a un chef qui est là ou pas là, comme ça on pourra peut-être manger un petit peu ou pas manger. Si je parle à mon épouse... le week-end, pour me dire comment s'est passée ma semaine, je lui raconte pas ce qui s'est passé. Parce que je vais pas lui raconter que j'ai passé une semaine à nettoyer la merde des vaches qui viennent juste d'être tuées. Je vais pas lui raconter que j'ai passé une nuit à égoutter du tofu et que c'est le truc le plus insensé que j'ai fait de ma vie. Donc ça, j'ai besoin de l'écrire pour moi. Donc, j'écris pas comme je parle. Je crois qu'il y a une fonction de l'écriture qui est beaucoup plus importante que celle de la fonction de la parole.
Peut-être tu peux préciser un petit peu ce que tu entendais par là à ça, quand tu disais « écrire comme on parle », ça veut dire que peut-être ce texte-là, il t'a fait une sensation à la lecture ou à l'oreille qui est différente de ce que tu lis habituellement ?
Oui.
C'est-à-dire, si tu essayes de préciser ?
Ben en fait, quand je lisais le livre, j'avais l'impression qu'en fait, vous me parliez.
Ah d'accord, ben, je suis flatté, déjà, ça me ravit. Hier, j'étais à Nanterre pour retrouver les petits jeunes avec lesquels j'avais bossé pendant 10 ans dans le travail social. On s'est raconté un petit peu nos vies et je suis ravi qu'une petite jeune de Pierrefitte puisse lire à la ligne à sa manière et que j'ai l'impression de lui parler. Je suis... Ouais, je suis vraiment touché. Je trouve que c'est un très très beau compliment. Et ben, je te dis merci à ça. Je sais pas trop quoi te dire, sinon merci.
Tu veux dire que ça te parlait plus que ce que tu peux lire habituellement ?
Oui.
Et tu saurais dire pourquoi ?
Pas vraiment.
C'est la magie de la littérature qui peut opérer quelquefois.
Il y avait une dernière petite question sur la forme et sur la langue. Tu te posais la question de la répétition, tu t'es demandé même...
Est-ce que vous vous sentez comme un robot ?
En travaillant ?
Oui.
Il y a des moments, oui, où je me suis senti comme un robot. Plein de moments, parce que les journées d'usine, je dois répéter pendant 8 heures le même geste. le même geste, le même geste, le même geste. C'est-à-dire que j'ai fait des journées de 8 heures où j'ai dû décartonner des caisses de crevettes. Donc il s'agissait juste d'enlever le carton, de le plier et de le mettre sur un stock à côté pendant 8 heures. Ou couper des queues de vache pendant 8 heures. Ou pousser des carcasses infiniment pendant 8 heures. Donc on a vite fait de se sentir un robot, mais ce qu'il faut dans ces moments-là, c'est justement s'échapper dans sa pensée pour pas se dire « je suis un robot ». Parce que si j'en arrive à dire « je suis un robot », je deviens complètement fou. Et je retourne pas travailler le lendemain.
Quand je dis autobiographie, ça ne veut pas dire du tout le plaisir de raconter ma vie. C'est plutôt découvrir, si possible, qui je suis. Ce que j'aime, ce que je fais, ce que je préfère faire, ce que je suis, en somme. Ayant été psychanalysé, ou ayant déjà lu Freud, puisque j'ai commencé l'âge d'homme, la toute première version, je crois que c'était avant d'être psychanalysé, mais enfin, j'avais lu un peu Freud, je savais de quoi il retournait. Ce qui m'a semblé, c'est qu'il fallait que cet examen de moi-même, que je le fasse pour d'autres domaines qui avaient été laissés de côté, presque entièrement laissés de côté dans l'âge d'homme. Et tout dire, étant entendu qu'on ne dira jamais tout. D'abord, il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce qu'on les ignore, tout simplement. Il y en a d'autres qu'on ne dira pas parce qu'on les a oubliés. Il y en a d'autres encore qu'on ne pourra pas décemment dire, simplement parce que ça mettrait en cause, de façon pas trop désagréable ou pénible, des tierces personnes. Alors donc, on n'est tout de même pas en droit de le faire. Et puis aussi, parce que, idéalement, il faudrait tout dire, certes, mais tout dire, une vie n'y suffirait pas. Même pour raconter une journée, enfin tout dire, ça veut dire comment je me suis réveillé, comment j'ai satisfait mes fonctions naturelles, comment j'ai mangé, à quoi j'ai pensé dans l'autobus ou ailleurs, etc., etc.
C'est une archive de Michel Léris en 1968 au micro de Paul Chavas. Joseph Pontus, il y a plein de choses dans cette archive qui résonnent avec votre texte à la ligne. Peut-être le mot qu'il utilise, autobiographie, en disant tout de suite, mais bon, ce que j'entends par là, moi, c'est simplement que je voulais chercher à savoir qui je suis. Est-ce que c'était l'une des ambitions de ce texte-là? Chercher à savoir qui vous êtes.
Déjà, c'est un magnifique extrait que je ne connaissais pas. Non, j'ai pas cherché à savoir qui j'étais en l'écrivant. C'est vraiment l'usine qui m'a révélé à moi-même. Spinoza dit dans la troisième partie de l'éthique sur les affects que la joie est le passage d'une perfection moins grande à une perfection plus grande. Paradoxalement, c'est en ce sens que l'usine m'a libéré. Je me suis découvert une perfection plus grande physiquement. J'ai pris des muscles que je ne connaissais pas. Et moralement. Je pensais que j'aurais jamais tenu dans cet univers absolument infernal. Et donc, c'est un peu pour ça que l'usine a été, pour moi, la fin de ma psychanalyse. J'ai eu la chance de faire une analyse lacanienne pendant quelques années, qui, je le croyais, était terminée, sauf qu'on sait bien qu'une analyse, ça se termine vraiment jamais, ou alors suivant des modalités un petit peu paradoxales, parfois. Et donc, c'est ce lieu-là qui m'a permis ça, parce que quand on se retrouve, comme on le disait avec Assa tout à l'heure, pendant 8 heures à faire la même tâche, on a le temps de réfléchir sur soi, sur ce qu'on est devenu, sur ce qu'on a fait dans sa vie. Et effectivement, il y a des trucs qu'on pourra jamais raconter.
Par exemple, quand je dis dans l'introduction, plein de corps qui s'entendent plus penser dans le brouhaha, en fait, c'est faux.
C'est à la fois vrai et faux. À l'usine, on ne s'entend pas penser, de toute façon. Ou alors, on n'entend penser que soi-même. Le brouhaha est tel qu'on ne fait que communiquer. Et communiquer à travers des bouchons d'oreilles, des casques pour éviter le bruit, et communiquer pour échanger des informations parcellaires qui ont juste rapport à la production, pas pour se raconter sa vie. À la pause, on est tellement fatigué qu'on a juste envie de boire un café, fumer une clope, les yeux dans le vague, en se demandant combien d'heures il va rester à faire, ou combien de tonnes il va rester à faire, parce que généralement dans l'agroalimentaire, tout se chiffre en tonnes. Ça serait plus un amas de personnes qui sont chacun dans leurs pensées, qui communiquent. Pas qu'ils ne s'entendent pas, parce que on communique sur des modalités visuelles ou gestuelles pour prévenir un collègue, par exemple, de faire attention à une pièce qui va tomber d'une machine ou à un danger ou à un risque potentiel. Mais ça passe pas par la langue.
Il y a un chapitre où vous écrivez noir sur blanc que vous n'auriez pas été le même sans la psychanalyste. Un chapitre qui arrive bien après que le livre a commencé. On s'est installé dans cette cadence, on a plongé dans ce monde-là, dans les odeurs autant que la littérature le peut, dans les images, dans les corps abîmés. Et d'un seul coup, en effet, on voit arriver la psychanalyste qu'on pensait sincèrement pas voir arriver dans ces pages-là. Et c'est salutaire, et c'est une seule phrase. Et ça dit quelque chose de très définitif qui fait que ça, vous n'auriez pas été le même homme, vous n'auriez tout simplement pas eu la même existence. Et peut-être, avec la littérature, vous n'auriez pas eu les mêmes ressources pour vivre ce travail-là.
Oui, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'épreuve de l'usine avance, il faut aller puiser au plus loin de ses ressources pour pouvoir continuer à tenir.
Physique et mentale.
Physique et mentale.
Et psychique.
Et psychique. Et on se raccroche à tout ce qui peut... Enfin, moi, je me suis raccroché à tout ce qui peut me faire tenir. C'est-à-dire les miens, évidemment, mes proches, mon épouse, en premier lieu, ma mère, mon chien, on pourra en parler aussi, les grands auteurs qui sont pour moi des compagnons de vie et qui sont pas morts du tout. Que ce soit auteur de textes ou de chansons ou de quoi que ce soit. Et évidemment, pour moi qui suis d'une tradition à la fois marxiste, lacanienne et structuraliste...
Ça fait pas mal.
Bah c'est bien, ça aide un peu à penser le monde quand même, je trouve, et à tenir dans le monde. Oui, effectivement, la lecture de Marx, de Lacan et de Foucault, en revenant de ce lieu... de ce lieu absolu de capitalisme total, m'a été d'un secours vital, ouais. Mais il faut aller les chercher loin, 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 pour... voilà, plus c'est dur, plus on se raccroche à l'authentique et à... Et pour moi, à mon universel, à moi.
Dans l'archive aussi, Michel Léris disait l'impossibilité de tout dire, qu'il y a une sorte d'horizon de ça, d'horizon d'idéal de tout dire, mais un réalisme qui fait que... En tout cas, il était conscient que c'était impossible. À plusieurs reprises aussi, Joseph Pontus, dans votre texte à la ligne, vous dites qu'il y a des choses que vous oubliez, il y a des choses que tue l'usine, il y a des choses qui, quand vous rentrez le soir, en fait, finissent pas dans le bouquin.
Non. Non, parce qu'il ne s'agissait pas du tout de faire un livre dénonciateur ou un livre à charge. J'ai voulu que ce soit un vrai chant d'amour, que ce soit pour mon épouse, évidemment, pour mes collègues de la classe ouvrière, et un chant d'amour à la littérature aussi. Et si je m'appesantissais sur les choses les plus glauques que j'ai vues ou que j'ai pu traverser, j'aurais sombré dans le pathos absolu. Et si je choisissais d'écrire...
Ou dans un manifeste de dénonciation, comme ouais. Il a pu en exister aussi.
Ouais, ouais, bien sûr. Et si je sombrais dans le pathos, je pense que j'aurais pas pu retourner au boulot la semaine d'après, en décrivant les trucs les plus noirs que je vivais, parce que c'est ça qui aurait occupé mon esprit et ma pensée. Donc il s'agissait beaucoup plus, pour moi, de notifier les petites joies, les petits sourires, les petits moments de répit, ou d'indicible qu'il peut y avoir, hein, au milieu de tout ce marasme. Mais il faut quand même décrire le marasme dans lequel on évolue, pour savoir à quel point une minute de gagné peut sembler un triomphe sur des milliers de mamelles de vaches qui explosent à la gueule, quoi.
Il y a quelque chose aussi de très puissant que vous écrivez, c'est que la découverte du travail harassant sort de l'angoisse. Et pour revenir un tout petit peu sur le terrain de la psychanalyse, c'est que d'un seul coup aussi, cette manière de faire fonctionner le corps, qui est dure, qui est inscrite dans un système capitaliste d'exploitation totale, vous réussissez à y trouver quelque chose qui, vous, en tout cas, de manière très personnelle et intime, vous déplace positivement.
Oui, par moment. Par moment, j'en reviens un peu à Spinoza, qui, pour moi, a partie liée avec l'analyse vraiment de manière très aiguë. Je fais partie de l'ordre du monde, et de l'ordre du monde qu'est l'usine, qui est un univers clos, où tout marche, comme Romain le disait dans l'extrait tout à l'heure, où tout marche comme dans une prison, comme dans une île, c'est-à-dire que tout est en interaction constante, les uns avec les autres, avec les machines, avec le temps qui passe ou qui ne passe pas. Et pourtant, je suis seul dans ma tête, mais vraiment seul à effectuer mes tâches. Et c'est ce retour sur soi qui est un peu comme lorsqu'on est sur un divan où on sait qu'il y a une oreille bienveillante qui vous écoute, mais on est foncièrement seul aussi malgré tout. Et on croit que c'est l'analyste qui va délivrer sa vérité, alors que ce n'est que soi-même qui découvrons notre propre vérité. Et l'usine m'a permis de découvrir ma propre vérité.
Une odeur de fer brûlé, de sueur, et le bruit aussi, le bruit des presses, de la chaîne, des engrenages. Mes horaires, c'était, j'étais à la normale, comme on disait, c'est-à-dire que j'embauchais à 8h du matin et je terminais vers 6h du soir.
Et que faisiez-vous à la sortie de l'usine?
C'est-à-dire qu'il y avait le café des sports où je retrouvais des copains, autrement je rentrais chez moi.
À partir de quand êtes-vous devenu un ouvrier?
Jamais, je crois. Malheureusement. Enfin, malheureusement. Non, je crois que j'ai toujours gardé une distance par rapport à mon rôle. On s'en débarrasse pas facilement de lui. Même maintenant, un certain nombre d'années après, j'en rêve. Il m'arrive d'en rêver.
Et vous rêvez de quoi?
Ben, la chaîne, que la chaîne va trop vite, que j'arrive pas à suivre, etc.
Le sentiment du monde est l'établi. Un matin, aussi brusquement que j'avais reçu mon ordre d'exil, je m'avais signifié mon retour à Choisy. Tu as une demi-heure pour être à l'usine, tiens, voilà ton papier. Vestiaire, rue, l'avenue de Choisy sous une pluie fine, déserte à 7h matinale. La grande porte de l'usine. Ça y est, je vais retrouver la multitude familière des ateliers. Le gardien jette un coup d'œil morose sur mon laissez-passer, me fait entrer. Je pense que dans quelques instants, je serai parmi les camarades. Pas question. L'agent du secteur Junot me met à la disposition du contremaître Gravier, qui me met à la disposition du régleur d'Anglois. Toujours la cascade hiérarchique. Les suis-moi, les attends-là, les mettez-le là. Quand on met un ouvrier à une place, on ne manque jamais à cette occasion de le remettre à sa place. C'est une coutume qui s'applique à tout le monde, qui fait partie du mode de fonctionnement normal de la maison. Dans mon cas, cependant, il me semble qu'ils sont spécialement désagréables. Les ordres sont de véritables aboiements. La grève me vaut sans doute ce traitement renforcé. Je saurai bientôt qu'ils connaissent maintenant ma qualité d'établi.
C'est la voix de Samy Frey qui lit un extrait de L'Établi de Robert Linhart. Et juste avant, c'était l'auteur lui-même qu'on entendait au micro de Laure Adler sur France Inter dans l'émission L'Heure Bleue. Joseph Pontus, peut-être pour vous interroger sur le corpus que constituent maintenant les textes qui relatent la vie à l'usine ou la condition d'ouvrier. Quand je dis maintenant, c'est en restant sur le 20e siècle ou le début du 21e siècle. À quel moment vous vous êtes dit que vous étiez peut-être en train aussi de vous inscrire dans cette lignée-là?
Alors, il y a un très très bon bouquin qui a été sorti par Xavier Vignat aux éditions La Découverte il y a 2 ans, qui s'appelle L'Espoir et le Froid, qui est une histoire sur les luttes d'écriture chez les ouvriers en France au cours du XXe siècle. Donc, il reprend et il remet en perspective et en problématisant d'une manière absolument géniale tous les textes ouvriers qui ont pu être écrits en France. Donc depuis 1900, donc ça va de Navelle à Linhart, en passant par Kaplan, Thierry Metz, tout y passe. Et en fait, il y a plusieurs problématiques par rapport à ça. C'est que Linhart ou Kaplan, qui sont des excellents bouquins, enfin L'Établi c'est vraiment 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 magnifique. Linhart, il sait qu'il a la possibilité de partir quand il veut de l'usine. Il y vient pour faire la grève à Citroën, hein, comme on sait. Il écrit L'Établi 10 ans après. Il y a des passages absolument magnifiques, comme il le dit, sur la cadence, sur le fait d'arriver et de voir que ça va trop vite, et de, en tant qu'intellectuel, ne pas pouvoir et se demander comment font ces travailleurs pour travailler là-dedans. Il y a des textes d'ouvriers qui, généralement, dans les années 30, ont pu s'émanciper par l'éducation populaire et écrire. Avant, moi, j'étais ouvrier, puis maintenant, je suis devenu prof dans le technique, etc. Mais il n'y a pas grand chose qui correspond à ma situation, qui était celle d'intellectuel qui se retrouve obligé d'aller à l'usine pour gagner sa croûte. Donc un vrai récit sur le déclassement social. Il y a des livres de reportage sur les abattoirs ou sur la condition prolétaire. Enfin, je pense à Oubnas, je pense à Le Guilcher pour Steak Machine, qui sont très très bien. Mais là encore, c'est des livres de reportage, c'est-à-dire qu'ils vont chercher le détail le plus croustillant et en faire une œuvre journalistique. Moi, la situation est tout autre. Je m'en trouve là par obligation. J'écris au départ pas pour faire un livre. Et j'essaye de raconter au plus cru ma condition de petit ouvrier sur des lignes de production dans l'agroalimentaire en Bretagne.
Est-ce que le fait d'écrire pendant que vous vivez ça change votre condition de petit ouvrier ?
Dans ma tête, oui. Pontus.
Ouais.
Dans ma tête, oui. Parce que peut-être.
Et peut-être aussi, du coup, dans ce que vous renvoyez, dans la manière dont vous vous inscrivez, y compris dans les relations entre les ouvriers, dans les relations à la hiérarchie.
Non, pas du tout.
Non plus par rapport à la hiérarchie. Le fait d'être en train d'écrire ne vous donnait aucune sorte d'empouvoirment.
Non, aucune. Aucune. Jusqu'au moment où j'ai annoncé que le livre allait sortir. En fait, je publiais quelques textes, quelques chapitres sur Facebook à l'occasion, à la semaine. Et c'est Jérôme Leroy, qui est un camarade et ami écrivain publié à la Table Ronde, qui m'a dit « Mais ce que tu fais, c'est je trouve ça très très bien. Est-ce que tu veux que je transmette à ma maison d'édition ?» Alors je lui ai dit « Bah Jérôme, enfin toi t'écris vachement bien. Enfin moi je fais juste des petits textes. Puis c'est des textes au jour le jour. C'est pas un livre. C'est pas quelque chose d'achevé. Donc si tu veux, je veux bien, mais bon, c'est voilà, il faut que je mette le point final à la ligne, sans mauvais jeu de mots, pour pouvoir proposer quelque chose. » Et il m'a dit, bah, on va voir, ça coûte rien d'essayer. Je lui ai dit, bah, vas-y. Et puis j'ai eu un retour favorable assez rapidement. Donc j'étais aussi ému que fier, parce que c'est quand même super chouette, quoi. Et du coup, oui, il a fallu tout retravailler pour en faire un roman en tant que tel. Et c'est à partir du moment où le contrat a été signé que j'ai annoncé à mes collègues et puis à ma hiérarchie que j'allais sortir un livre. Et là, les réactions ont été de la part de mes collègues très 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 belles et enthousiastes. Ils ont lu des chapitres, ils ont trouvé que ça reflétait exactement la nature du travail qu'on pouvait effectuer. Que c'était ça, que c'était vrai. Même s'il me disait, on passe à côté des trois quarts des références que tu balances dans le bouquin, mais voilà, sur le côté authenticité, terre-terre, comme on dit à Pierre Fitte, t'es bon. Et puis d'un autre côté, j'avais des retours enthousiastes de très très grands lecteurs avec une grande culture littéraire. Donc je me suis dit, bah, je suis pas trop mal là, quoi. Et pour le coup, il y avait des collègues qui m'ont dit, bah si on avait su, on aurait parlé d'autre chose. On aurait pu parler de bouquins, par exemple, ou de si on avait su. Mais bon, comme mon contrat n'a pas été renouvelé par ma direction à la suite de l'envoi du bouquin, on en parle quand on se recroise maintenant en rencontre ou en librairie, quoi.
France Culture par les temps qui courent. Assa Traoré, Marie Richeux avec Joseph Pontus.
Au début de ce dernier livre, si je me demande aujourd'hui pourquoi j'aime la littérature, la réponse qui me vient spontanément à l'esprit est parce qu'elle m'aide à vivre.
Mais je pense que cette réponse qui est la mienne est aussi celle de tous ceux qui consacrent une part importante de leur temps à lire de la littérature, c'est-à-dire des livres qui ne sont pas immédiatement utiles, ils ne leur apprennent pas comment exercer mieux leur métier, qui ne sont pas toujours simplement amusants. Donc il faut bien qu'il y ait une autre raison, la pure curiosité ne peut pas tout expliquer. Et il me semble que si nous continuons aujourd'hui à lire notamment des auteurs provenant d'époques lointaines, de pays lointains, qui ne parlent pas exactement de notre vie d'aujourd'hui, eh bien c'est parce que ces écrivains savent mettre en scène la condition humaine, que nous nous y reconnaissons, que d'une certaine manière, ces livres, ces Œdipe Roi, ces Iliade et Antigone, ou ces pièces de Shakespeare, ces romans russes du XIXe siècle, eh bien, ils continuent aussi de parler de nous, et non seulement de leurs contemporains. Et cette parole est essentielle.
Ah, je suis toujours très reconnaissante aux personnes qui se donnent la peine de dire pourquoi c'est important de lire et d'écrire des livres. Ici, c'est Tsvetan Todorov en 2007 au micro d'Alain Weinstein dans l'émission Du jour au lendemain sur France Culture. Joseph Pontus, dans ce texte-là, a la ligne et a commencé par son titre. Il y a bien sûr l'usine, il y a bien sûr la condition ouvrière, il y a bien sûr la classe ouvrière, il y a les enjeux politiques qui sont liés à ça, il y a des enjeux politiques liés à l'agroalimentaire, il y a l'histoire d'amour qui est une sorte de fil conducteur, de cordon ombilical de ce texte, et il y a à quoi ça sert d'avoir lu des livres et d'en lire encore. Et il me semble que c'est vraiment une dimension extrêmement puissante de ce texte-là. Est-ce que vous l'avez découvert en l'écrivant? Est-ce que vous saviez qu'en écrivant sur l'usine, en fait, vous écririez aussi profondément sur la manière dont est fichée en vous la littérature?
Bah, de toute façon, je crois que tous les écrivains ne répètent ce qu'Homère racontait déjà il y a 2000 ans, quoi. Nous ne faisons que nous entregloser, disait Montaigne. Voilà, dès le sous-titre, Feuillet d'usine, c'est évidemment un hommage à René Char, qui dit dans les Feuillets d'hypnose, Archiduc a découvert sa vérité quand il a épousé la résistance. Qui est un texte, tous les feuillets d'hypnose sont magnifiques de toute façon. Et voilà, moi j'ai découvert ma vérité en épousant l'usine, enfin en épousant mon épouse, mais aussi en épousant l'usine. Ou en faisant que l'usine m'épouse, je sais pas exactement quel serait le terme le plus juste. Et oui, la littérature m'a sauvé la vie.
Mais vous voyez, on entend beaucoup ça. Enfin, je veux dire, sur France Culture, c'est très souvent que les gens disent « Mais l'art, c'est hyper important. L'art, ça me sauve la vie. La lecture, ça me sauve la vie. » Mais quand on dit aux gens « Mais très bien, mais alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?» Souvent, c'est plus balbutiant. Alors que là, j'ai l'impression d'un truc très concret.
Concrètement. Voilà, je suce des bonbons à l'usine pour passer le temps. J'imagine que je suis un personnage de Beckett qui suce des cailloux.
Vous rendez compte que avoir la ressource de Beckett dans votre tête, c'est comme avoir une liasse de billets en poche, quoi.
Et puis même, je me dis, mais putain, pardon, mais je peux pas faire autrement. Il y a des jours et des jours, je me suis dit, mais si Beckett avait été dans cet univers-là, mais quel texte il aurait fait, quoi? Ça aurait été un truc de cinglé. Déjà qu'il fait des textes de cinglé, le grand Sam. Et je me disais, pareil, si Dumas avait été là, si Michon avait été là, mais quel texte ils auraient produit? Et dans ma tête, de grand lecteur et d'auteur aussi, je me suis fait des pastiches en essayant de m'imaginer Dumas arrivant à vélo à l'usine par une nuit froide, un beau matin d'avril 1645. Et ça me prend 2 heures d'imaginer ce texte-là écrit par Dumas.
Tout
en faisant les gestes automatiques.
Parce que,
paradoxalement, plus on fait de gestes automatiques, plus ça libère d'espace pour pouvoir penser. Plus le geste est efficace, Si le geste n'est pas efficace, on n'a pas le temps de penser. On pense à comment améliorer son geste. Et donc là, on est l'esclave de la chaîne, comme dans l'extrait de Linhart qui dit, voilà, quand on voit que ça va trop vite, on peut penser qu'à améliorer son geste, et là, on n'est pas bon.
Ça veut dire que paradoxalement, Joseph Pontus, une des voies de libération ou d'émancipation des ouvrières ou des ouvriers pendant qu'ils travaillent, c'est d'être extraordinairement bon dans ce qu'ils font.
Ouais, paradoxalement, le travail rend libre.
Mais c'est ce qui pose question de l'emploi des intérimaires. C'est que vous décrivez aussi plein de corps hyper gauches qui arrivent pour une journée et qui sont là absolument prisonniers de leur tâche parce qu'ils ne savent pas faire.
C'est
qu'en fait, il y a une possibilité de libération comme vous la découvrez.
Ouais.
Mais en plus, j'imagine plein d'autres possibilités de libération dès lors qu'on devient absolument maître de sa tâche.
Tout à fait. Les premiers jours ou les premières heures à un poste sont toujours les plus difficiles parce qu'on a l'impression que... Enfin, c'est même pas qu'on a l'impression, c'est que la ligne ne s'arrête jamais. Et donc, ils vont faire son poste à sa tâche dans la minute impartie. Et plus on prend de l'assurance et plus les gestes sont automatiques et efficaces, plus on peut se libérer une, deux ou trois secondes de pensée.
Ça, c'est une expérience que vous avez partagée. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que vous qui pensez ça.
J'en ai jamais discuté avec mes collègues, mais je vois mes collègues efficaces au travail, je vois ceux qui ne sont pas efficaces.
Ceux qui chantonnent.
J'entends ceux qui chantonnent, ou ceux qui hurlent à tue-tête, et je vois mes collègues qui arrivent sur un nouveau poste et qui n'y arrivent pas. Avec les gouttes de sueur qui commencent à perler vraiment le...
De stress.
Ouais. Et donc ça se voit et ça s'éprouve tout de suite, et je préfère travailler évidemment avec des collègues qui sont plutôt efficaces, parce qu'on peut se donner un coup de main et... À la fin de la journée, on a peut-être gagné 5 minutes de travail. Et 5 minutes dans une journée de 8 heures à la chaîne, c'est énorme.
Sauf que vous décrivez l'envers, j'allais dire l'enfer du décor. Vous décrivez l'envers du décor puisque vous décrivez celui qui travaille à l'endroit le plus découpé du travail, dans l'intérimaire, la mission. C'est-à-dire un coup de fil à 4 heures pendant la sieste pour embaucher à 7 heures ou à 8 heures. Donc c'est l'inverse de la possibilité de maîtriser son travail.
Ouais, après là c'est une question politique.
Mais c'est pas que votre livre n'en agite pas quelques-unes.
Non plus, non, je les ai pas gommés non plus. L'usine de crevettes, par exemple, il y a 2/3 d'intérimaires pour 1/3 de titulaires. Pourquoi ? Je suis persuadé. Peut-être que je me plante dans ma réflexion politique, mais bon, je suis persuadé. Enfin, je sais que les intérimaires n'ont pas le droit de se mettre en grève. Je sais que les intérimaires n'ont pas le droit de refuser un poste. Je sais que les intérimaires n'ont pas le droit de refuser des heures supplémentaires.
En tout cas, quand ils les refusent, vous dites très bien qu'ils ne sont pas rappelés.
Non.
Quand les ouvriers qui le peuvent, entre guillemets, sont en grève, vous vous rendez compte que sur la ligne de production, il n'y a que des intérimaires
qui sont au poste, ou
des tâcherons. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi une mécanique tout à fait huilée. Pour non pas faire disparaître la classe ouvrière, dont vous dites qu'elle existe encore, mais qu'elle ne peut pas...
Mais la conscience de classe ouvrière. Et en ce sens, le capital a complètement gagné. C'est un état de fait absolu. Oui, il préfère payer des intérimaires plus chers, à hauteur de 20% de salaire en plus, parce qu'en tant qu'intérimaire, on a les 10% de congés payés et les 10% d'indemnité de fin de mission, pour que il y ait plus de... ce que je répète souvent, mais j'étais un petit peu naïf encore, même si j'avais quelques années au compteur. J'imaginais en entrant à l'usine, limite les photos de Billancourt à l'époque où tous les mecs arrivent au portail ensemble, bras croisés, limite le couteau entre les dents, chantant l'international, quoi. Mais non, les horaires sont décalés par rapport aux prises de poste. Si l'abatteur, il abat la vache à 6 heures, celui qui va l'ouvrir, il va commencer à 6h15.
Et ils ne vont pas se voir. La découpe, en fait.
Ouais, c'est...
Tout à l'heure, avec Assa, on parlait du rythme du texte et de la manière dont c'est découpé, mais ça dit aussi la manière dont toute la chaîne des vies humaines est découpée.
Oui, moi, sur une usine de 2000 personnes, j'en connais qu'une bonne vingtaine. Ce qui est absolument effrayant quand on imagine. Et donc, les ouvriers ne se définissent pas comme ouvriers en tant que tels, mais suivant leur poste de travail.
Sept mois qu'il est au poisson pané. Il a 20 ans. Il en a plein le cul. Entre le bizutage furieux qu'il a subi, l'ambiance de merde et la monotonie lancinante des heures de nuit à bosser, toujours bosser, et ses poissons panés congelés qui n'en finissent jamais. Au milieu de la nuit, le bruit des machines s'adoucit un peu. Il me demande pourquoi je suis à l'usine. Je lui réponds comme à tous la simple et belle vérité. avoir tout quitté pour épouser celle que j'aime. S'être marié, la joie d'être là. Et l'usine, bah, faut bien bosser. Un bébé pour bientôt s'enquiert-il de suite. On espère tout autant qu'on y travaille. Lui aussi va se marier bientôt. Beaucoup de choses à préparer. Il panique un peu, mais ils avancent. Plus loin, dans les bribes de mots que nous échangeons, il m'apprend que j'habite non loin de là, où travaille son copain. Quelques jours plus tard, je file un coup de main dans une autre équipe. On me parle de son mariage. Il voulait se paxer, mais avec la nouvelle loi, c'est plus simple pour adopter s'il se marie. Je souris tendrement. Je pense fort à Madame Taubira qui a eu si raison qu'un petit PD ouvrier puisse avouer à l'usine, fût-ce plus dur chez ses parents, qu'il est gay. Qu'il a la loi pour lui, et même s'il a dû en chier et que le bizutage dû être un peu raide, ils vont se marier. Au distributeur de canettes, je me prends un Perrier à la fin de ma nuit. Champagne.
Joseph Pontius, on entend un extrait de votre texte « À la ligne » par Romain de Bec-de-Lièvre et c'est un passage que je voulais faire entendre parce qu'il est vraiment clos sur lui-même comme un petit portrait, vraiment comme une petite peinture d'un parmi tous les autres, on imagine, mais d'un aussi qui, par son homosexualité, par les problématiques du rapport au mariage, à son insertion, à la manière dont il peut le vivre à l'usine ou ailleurs, dit aussi que l'usine, pourtant qu'elle soit un monde à part entière, n'est pas un monde coupé du monde. Et qu'il y a plein de moments où ça se rappelle dans votre écriture. Vous pensez à Madame Taubira qui a eu si raison de faire qu'un petit PD puisse dire qu'il va se marier avec son copain. Et ça nous dit aussi que une fois la porte fermée, bon voilà, le monde n'est pas ailleurs.
Merci pour la lecture de ce passage. C'est pas avec celui-là que je vais être invité sur Radio Courtoisie. J'en suis ravi. C'est un petit bonhomme de 20 ans, ouais, qui m'a touché énormément. J'espère qu'il va bien, qu'il s'est marié, qu'il a pu adopter. Et j'évite pas les sujets qui, je dis pas les sujets qui fâchent, parce qu'il y a des épisodes aussi d'un racisme ordinaire et banal qui est absolument, moi je trouve affligeant.
Et vous les racontez tout autant.
Je les raconte tout autant. Et voilà.
Et d'homophobie, et de bizutage.
Et de bizutage. Et ouais, ce qu'il y a, c'est que c'est un monde qui est tellement dur que les ouvriers. Parce que moi, j'étais affecté principalement où il y a des ouvriers. Il y a peu d'ouvrières dans le livre parce que les ouvrières, c'est plus sur les travaux de conditionnement, de mise en barquette, là où j'étais pas trop.
Il y en a quelques fois où une femme rentre à la ligne, vous êtes effaré de la manière dont elle est, si je puis dire, avec mille guillemets, accueillie. Donc oui. On parle d'homophobie, de racisme ordinaire et évidemment de sexisme très fort.
Bien sûr, mais je crois que c'est beaucoup plus de la part des ouvriers une manière de se prémunir dans le sens où ça c'est... On fait pas un travail de PD sans que ce soit de l'homophobie, mais vraiment de une posture un peu virile pour et viriliste, pas un travail de gonzesse, ce qui reviendrait exactement au même.
Mais qui sont sur fond d'homophobie et de sexisme.
C'est comme le racisme, c'est-à-dire qu'il y a des collègues. Parce qu'il y a évidemment beaucoup de travailleurs étrangers qui sont appelés comme main-d'œuvre corvéable, qui va encore moins se plaindre qu'un intérimaire. Et si la personne bosse bien, on va l'appeler par son prénom. Et s'il travaille pas bien, ça va être Blanche-Neige ou Bamboula, quoi. Et on en est encore à dire Blanche-Neige ou Bamboula en 2019 en France. Parce que la personne va mal bosser. Mais ça se fait beaucoup plus par rapport à l'estime du travail qui est effectué.
Mais sur un fond de racisme.
Ouais.
Parce qu'on est dans le monde comme il va et qu'on est dans un monde dur et que probablement c'est exacerbé.
Ouais.
Pour en revenir à ce portrait-là, est-ce qu'il y a parfois des êtres comme ça que vous n'avez pas voulu laisser filer ? Et est-ce que écrire ce texte, Joseph Pontius, ça fait plusieurs fois que vous prononcez ce mot-là, mais finalement on s'est peu attardé, une manière de garder en mémoire ?
Oui. Il y a des êtres dont j'aurais aimé effectivement tracer le portrait que j'ai pas fait par fatigue, comme on le disait tout à l'heure, que j'ai laissé échapper 2-3 anecdotes qui auraient pu faire des petites vies minuscules. Alors déjà, j'aime beaucoup le chef-d'œuvre de Michon, mais c'est voilà, vie minuscule dans le sens le plus noble de tous ces gens-là qui ne parlent pas, qu'on n'entend pas parler, qui n'ont pas, comme vous le disiez, les mots pour se dire et pour se raconter.
Il y a quelque chose que, à ça, tu as noté. On n'a pas le temps d'en parler beaucoup, mais c'est un rapport à la guerre. C'est là, je sais pas, je me dis que ça peut être une sorte d'introduction à ce qu'on va entendre et qui sera notre conclusion.
Avoir un jour de repos, c'est comme une guerre gagnée.
Je t'écris, ô mon loup de la hutte en roseau, où palpitent d'amour et d'espoir neuf cœurs d'hommes. Les canons font partir leurs obus en monôme, et j'écoute gémir la forêt sans oiseaux. Il était une fois, en Bohême, un poète qui sanglotait d'amour, puis chantait au soleil. Il était autrefois la comtesse Alouette, qui sut si bien mentir, qu'il en perdit la tête, en perdit sa chanson, en perdit le sommeil. Un jour, elle lui dit « Je t'aime, ô mon poète ». Mais il ne la crut pas et sourit tristement. Puis il s'en fut en chantant tirelire à Louette et se cachait au fond d'un petit bois charmant. Un soir, en gazouillant son joli tirelire, la comtesse Alouette arriva dans le bois. « Je t'aime, mon poète, et je viens te le dire. Je t'aime pour toujours. Enfin, je te revois, et prends-la pour toujours, mon âme qui soupire. » Ô cruelle Alouette au cœur dur de vautour, vous mentîtes encore au poète crédule. J'écoute la forêt gémir au crépuscule. La comtesse s'en fut et puis revint un jour. Poète, adore-moi. Moi j'aime un autre amour. Il était une fois un poète en Bohême qui partit à la guerre, on ne sait pas pourquoi. Voulez-vous être aimé? N'aimez pas, croyez-moi. Il mourut en disant « Ma comtesse, je t'aime. » Et j'écoute à travers le petit jour si froid les obus s'envoler comme l'amour lui-même.
C'est Monsieur Trintignant qui lisait le poème à Lou de Guillaume Apollinaire sur France Culture. On termine avec ça, Joseph Pontius, parce qu'évidemment, la guerre et cette guerre-là a une place assez importante dans votre texte, à la ligne. Et peut-être une remarque à ça, quelque chose qui t'a marqué à ce propos.
Vous parliez des gueules cassées.
Ouais.
C'était, ça m'a assez choqué parce que les gueules cassées, c'est un peu un sujet sensible, entre guillemets. Et c'est un rapport aussi avec la guerre. Avoir un jour de repos, c'était c'est comme un exploit, une guerre gagnée pour vous.
Alors déjà, merci pour Trintignant, Apollinaire et les poèmes à Lou. J'ai déjà eu la joie d'avoir une très belle lecture par Romain. Si un jour je pouvais avoir la joie d'une lecture d'À la ligne par Trintignant, je ne dirais pas non. Donc s'il nous écoute sur France Culture, je suis à sa disposition. Pour en revenir à la guerre, je vais être obligé de faire un peu le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les écrits ouvriers. Moi, j'ai pas vu, voilà, de récits de déclassement de gens qui sont devenus ouvriers et qui ont écrit des romans. Par contre, j'ai vu beaucoup, et j'ai beaucoup de mes très chers grands auteurs maîtres en écriture qui se sont engagés ou qui ont été mobilisés à la guerre en 14. Et qu'on découvert une réalité à laquelle ils n'étaient pas du tout préparés.
Donc c'est un parallèle dans lequel vous avez pu vous glisser.
Ouais, c'est-à-dire que, ben, pour moi, mes chéries, hein, on a tous ces chéries un petit peu, Sandrard, Apollinaire, Aragon, Céline, ils écrivent plus du tout pareil après 14 qu'avant. Leur style, il s'épure, il devient plus sec, il devient beaucoup plus, comme on disait tout à l'heure, à l'os. Moi, j'ai pas fait la guerre, hein, évidemment. J'ai juste fait l'usine. Mais je trouve que, voilà, j'ai aussi côtoyé des gens que j'aurais jamais pu côtoyer avant. J'ai fait des tâches que j'aurais jamais fait avant. J'ai vu des gueules cassées, effectivement. J'ai vu des bras cassés. J'ai vu des jambes de bois. Ce que j'aurais jamais vu avant, si j'étais resté dans mon petit travail social que je faisais. Mon style d'écriture a changé comme je l'aurais jamais fait avant. Je pense que si j'avais pas eu l'usine, j'aurais pas pu écrire ce livre-là. Je pense que s'il n'y avait pas eu la guerre, évidemment, Céline n'aurait pas pu écrire Le Voyage. Donc c'était un peu un réconfort personnel que de lire ces gens-là. Moi, dans ma petite guerre contre l'usine, dans ma guerre contre la douleur, dans ma guerre contre le temps,
dans ma guerre contre les chefs et dans ma guerre contre moi-même. Et je crois que les... Oui, je le redis à chaque fois, mais je crois que les pages d'Apollinaire, les lettres d'Apollinaire, à Lou et à Madeleine aux tranchées, où il y a les poèmes, où il y a toute la correspondance, à Dieu que la guerre est jolie, il veut se croire que la guerre est jolie. Il veut essayer d'en faire quelque chose de beau, de cette horreur absolue, de cadavres, de sang, d'odeur, de merde, de nuit. Et moi, j'ai essayé d'en faire quelque chose de beau aussi.
Et c'est d'ailleurs lui que vous citez en tout premier exergue de votre texte, Joseph Pontus. C'est fantastique, tout ce qu'on peut supporter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à la ligne Feuillet d'usine. C'est paru aux éditions de la Table Ronde. Et je pense qu'on peut faire un grand merci à Assa Traoré qui a mené brillamment l'interview avec moi. Merci Assa.
Merci Assa.
De rien.
Il est interdit de salarier un homme. Démission.
Au son ce soir, c'était Cédric Châtelus à la réalisation et aussi à la mise sur la piste de ce livre-là, faut pas l'oublier, c'était Lise-Marie Barré. Un grand merci à Anne Toscane-Viudès, Jeanne Aléos, Romain de Becdelièvre, Marianne Chassor et Lou Quevauvillier qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les jours. Vous pouvez la réécouter, cette émission, sur franceculture.fr ou en vous abonnant au podcast de Parlez-Ton qui court. Dans un instant, c'est le journal de France Culture. Très belle soirée sur France Culture et à lundi, si tout va bien.
Monsieur, madame, veuillez accepter ma démission là comme ça, scotché sur tes lunettes de champion mondial du dentifrice. Tous en même temps. Démission massive, démission collective, démission générale. On n'en veut plus de vos virements de radin, on n'en veut pas de votre putain de smic à la con. Et tout le conseil de masturbation. Là comme ça demain, on fait le mur, on détale tous, on déclare le rêve général. Nous avons le devoir de désobéir à tous ces marchands de bétail, à tous ces DRH et autres grands prêtres en management. Le devoir d'en finir. Vous m'entendez les galériens? On prend sa main droite, on prend une feuille, un stylo, on écrit. Madame, monsieur, j'ai l'honneur et le plaisir de vous caler ma démission entre les deux parties charnues et avec mon meilleur souvenir. Démission, vous êtes pas encore parti. L'économie, c'est un truc qui s'enlaille, un truc qui nous rabaisse, un truc qui nous salit. Non, on est plus grand que ça, nous, papy, on a des ailes. Économie, ça veut dire radinerie. Un sou est un sou. Mais nous, on s'en cogne, on va tout voler, on va tout donner comme ça, gratos, ça va vous faire boule. L'économie, c'est la science de l'avarice, le royaume.